Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, vous êtes dans le paddock RMC pour débriefer les week-ends de Grand Prix tous les lundis après une course sur toutes les plateformes et sur rmc.fr. Dans le paddock RMC, aujourd'hui pour revenir sur cette deuxième course de la saison en Arabie Saoudite, c'est un peu notre Verstappen à nous, il écrase tout sur son passage au volant de sa Red Bull, c'est Jean-Luc Roy, salut Jean-Luc.
Oula, tu me gênes, salut mon Nico, bonjour à tous.
Le Sergio Perez du paddock RMC, c'est Paul Lafitte, salut Paul.
Salut Nico, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Et un petit nouveau qui vient de rejoindre l'écurie RMC, pour l'instant c'est notre pilote réserviste, mais on va tout faire pour qu'il aille titiller les titulaires en place, c'est Alex Caldi. Salut Alex, ravi de t'accueillir.
Bah merci, merci, quel plaisir, heureusement je suis pas en Alpine. Ça,
Alex Caldi qui est créateur de contenu, hein, journaliste dans le sport auto, vous pouvez le retrouver, on te retrouve sur quoi? Sur Twitch, sur Insta, sur TikTok,
ouais,
sur,
exactement, bien sûr.
Voilà, et t'es co-créateur du Media Off Track, qu'on peut retrouver aussi sur toutes les plateformes. Voilà, pour présenter un peu Alex qui sera avec nous sur tous ces podcasts, le paddock RMC. Les gars, les Red Bull ont encore écrasé la concurrence à Jeddah dans un Grand Prix qui a pu parfois sembler soporifique en tête de course. Avec cette outrageuse domination, est-on condamné à assister à des purges tout au long de cette saison? Est-ce qu'on a de l'espoir quand même pour vibrer? Moi, je vais pas vous mentir, j'y crois plus trop et j'espère que la Dream Team RMC va me redonner un peu d'espoir. Il y a eu malgré tout quelques éclaircies, notamment un jeune pilote Ferrari, Oliver Berman, on en reparlera. Avant d'arpenter le paddock RMC, les gars, je voulais remercier nos auditeurs qui ont été très nombreux à nous écouter la semaine dernière et qui nous ont noté sur les plateformes. Jean-Luc, t'as eu de très bonnes notes la semaine dernière. Donc,
écoute, c'est quand même très sympa. Ça me rappelle mes études, alors je suis content.
Continuez vraiment, en tout cas, à nous noter. Ça donne de la visibilité au podcast et ça fait parler au maximum du paddock RMC. Les gars, c'est parti.
Un départ donc qui va être donné maintenant dans quelques secondes. Les feux rouges vont s'allumer, c'est à l'extinction des cinq feux, c'est imminent maintenant que les pilotes vont s'élancer. On surveille évidemment Verstappen au commandement de ce Grand Prix. Voilà, les premiers mètres, ils trouvent l'adhérence immédiatement, tout comme la Ferrari. Attention, Pérez derrière, très rapide, mais non, Charles Leclerc vient fermer la trajectoire. Pérez à l'extérieur, est-ce que Leclerc va parvenir à se maintenir alors que Pérez est obligé de négocier? On est tout près des murs maintenant, Verstappen est devant et je crois que Charles Leclerc, oui, va parvenir à conserver de justesse la deuxième position au détriment de Pérez qui est parti très fort. Alonso, quatrième. Piastri, cinquième. Norris, sixième. Russell, septième. Hamilton, huitième. Stroll, neuvième. Tsunoda, dixième. On a conservé les positions hein, pour les premiers. Pierre Gasly, 18e sur la grille et qui a dû s'arrêter à l'issue du premier tour et renoncer immédiatement. Donc la tristesse évidemment dans le camp Alpine. Ocon est pour le moment 16e. Ah, j'aimerais te dire qu'il y a du suspense, Flora. Le suspense, c'est de savoir combien Verstappen va coller à Pérez. Verstappen qui a dominé de la tête et des épaules ce Grand Prix, comme il l'avait fait lors du premier. Ce sera donc la deuxième victoire de la saison 2024, la 56e de sa carrière de pilote de Formule 1, la 115e de l'équipe Red Bull et le 30e doublé, puisque c'est Pérez qui va terminer deuxième à 8 secondes et demie exactement. Oliver Berman fait un très beau parcours et termine 7e en étant parti 11e avec la deuxième des Ferrari.
Le paddock RMC.
Avant de se plonger dans l'analyse de ce Grand Prix à Jeddah, deuxième manche de la saison, le classement de la course, déjà Max Verstappen qui domine largement ce Grand Prix, 13 secondes 643 d'avance sur son coéquipier Sergio Perez. C'est Charles Leclerc et Ferrari qui complètent ce podium, comme la semaine dernière, c'est une Ferrari qui s'installe sur le podium aux côtés des Red Bull. Piastri termine 4e avec sa McLaren, Fernando Alonso 5e sur Aston Martin, George Russell 6e, Oliver Berman qui a remplacé Carlos Sainz qui s'est fait opérer de l'appendice et 7e, Lando Norris 8e, Lewis Hamilton 9e, Nico Hülkenberg 10e. Premier point pour Haas dans cette saison de Formule 1. Un mot bien sûr sur nos pilotes français Alpine qui sont loin. Esteban Ocon est 13e, bon, c'est un peu mieux que la semaine dernière, alors que Pierre Gasly lui fait partie des deux pilotes qui ont abandonné ce week-end avec Lance Stroll, problème de boîte de vitesse au premier tour. Au classement des pilotes, Max Verstappen à 51 points et déjà 15 points d'avance sur son coéquipier Sergio Perez, et Red Bull s'envole bien évidemment, vous imaginez, en tête du classement des constructeurs. Voilà pour la situation comptable. Les gars, malgré tout ce qui se passe en interne, Red Bull reste intouchable, imbattable. 9e victoire consécutive pour Mad Max qui se rapproche de son record de 10 d'affilée. C'est la 56e de sa carrière, c'est même le 100e podium en 187 courses. La seule miette qu'il a laissée aux adversaires, c'est le point du meilleur tour en course pour Charles Leclerc. Donc ils sont trop forts, ça c'est sûr. On va pas faire 30 minutes sur ça, Jean-Luc. Par contre, cette domination, elle se traduit forcément par des courses un peu ennuyantes, sans suspense. J'ai envie de te demander, Jean-Luc, si on est condamné à regarder un peu des purges comme ça jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on va vraiment prendre un peu du plaisir, nous, les fans de F1, en regardant des courses dont on connaît déjà l'issue ?
Alors, tu connais évidemment ma réponse ? Bah, bien sûr que non. Sinon, non, mais je vais tailler quand même un petit peu. Bon, d'abord, pour savoir véritablement si cette domination va s'exercer plus longtemps, c'est bête à dire, c'est un pléonasme. Il faut attendre un petit peu, parce que c'est trop tôt. Il n'y a eu que deux Grands Prix en deux toutes petites semaines. Donc, pour moi, il faut attendre les cinq premiers Grands Prix, je pense. Donc, il faut attendre naturellement l'Australie à venir, où le circuit est radicalement différent. Il n'est pas permanent non plus. Il a ses caractéristiques, surtout le Japon, que j'adore personnellement, le circuit de Suzuka, et adorer les pilotes, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et puis peut-être même la Chine, donc tu vois, ça nous emmène joyeusement jusqu'au 21 avril, et là, on aura évidemment une vision globale. Alors en sachant que, oui, la Red Bull est la meilleure monoplace, tout le monde est d'accord, et je vois pas pourquoi je dirais le contraire, ce serait totalement stupide, donc c'est la meilleure, mais Ferrari s'est rapproché, Fred Vasseur, qui est vraiment... d'une honnêteté scrupuleuse et dans le maelstrom, on va parler, je pense, dans un instant, des histoires de fange, des histoires de caniveau, des histoires d'égout, voire de fond de bidet. Lui s'abstient de tout commentaire, contrairement à d'autres patrons d'équipe. Je ne les nommerai pas, mais vous voyez ce que je veux dire, du côté de Toto Wolff et de Zak Brown. Ah, je les ai nommés, bon ben tant pis. Donc, si tu veux, il y a des gens qui ont un petit peu de sens de la réserve et qui se ruent pas. Tu sais, ça me rappelle un peu ces meutes. Dès qu'un animal est blessé, bah, tout le monde vient le dévorer vivant. Bon, tout ça est un peu sordide et un peu abject. Donc j'en reviens à la performance. Donc Ferrari, objectivement, s'est rapproché, a gagné au moins une bonne moitié du retard qu'elle avait l'an dernier par rapport à la Red Bull. Je parle bien de l'équipe. Après, bah, de toute façon, je pense que Leclerc ne cesse de s'améliorer. Et puis, bon, il y a Carlos Sainz, mais on va parler de cette
bien
pépite,
sûr.
On peut déjà le dire, Oliver Bierman. Voilà, donc ma réponse, c'est attendons 5-6 Grands Prix pour savoir. Alors, une bonne nouvelle, allez, j'arrête là-dessus pour le moment, c'est que l'écart avec le deuxième, avec Pérez, c'était 22 secondes à Bahreïn, ça n'est que 8 secondes véritablement sur la piste là, puisqu'il y a eu les 5 secondes de pénalité qui ont frappé Pérez.
Ah, tu me redonnes un peu d'espoir, mon Jean-Luc, ça fait plaisir.
Ça va mieux, hein.
Ouais, ça va un peu mieux. Alex, malgré tout, on a la sensation que en fait, l'écart il est tellement grand entre les Red Bull et les autres, que même si Ferrari arrive à combler un petit peu ça, même s'il y a des choses qui nous font vibrer, en fait, quand tu regardes le classement au bout de 10 tours, désormais, tu fais même plus attention à ce qui se passe devant, en fait. Tu regardes le milieu du tableau et t'en es à te dire, tiens, il y a une bagarre pour la 5e place, là, entre Piastri et Hamilton. Tiens, t'as Norris qui se chatouille avec une Ferrari. Et en fait, devant, tu regardes plus ce qui se passe.
Bon, on regarde plus ce qui se passe devant, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même des courses qui sont passionnantes. Hier, c'est vrai, quand on regardait tout ce qui se passait au-delà de la 10e place, bah, t'avais du spectacle. Et c'est vrai qu'aussi, notamment l'écart qu'il y a dans le midfield, c'est extrêmement resserré cette saison. Et ça, c'est plaisant, bien sûr.
Mais est-ce que tu peux vraiment te satisfaire de ça pour rendre une saison de F1, tu vois, passionnante ? Moi, c'est ça qui m'interpelle.
Tout ce qu'on regarde à chaque fois, c'est toujours celui qui gagne. Et je comprends cet avis, mais il y a d'autres batailles. Il y a d'autres batailles réellement dans tout le field, et c'est ce qui est intéressant. Après, pour venir à Red Bull, j'avoue que moi, je suis un petit peu plus pessimiste que Jean-Luc, et ça peut se comprendre d'une certaine manière, parce que moi, ce qui m'a frappé réellement, c'était la fin de course, pas essentiellement toute la course de Verstappen, parce qu'il était devant, il faisait sa vie devant, il regardait une série Netflix très certainement, mais c'est juste que il était devant et il laisse le point du meilleur tour en course, et la justification qu'il a donnée, c'est ah bah en fait mes pneus étaient trop froids. Donc c'est-à-dire que le gars, il a fait toute la course devant, il était tout seul devant, il s'est baladé devant, il était de toute façon extrêmement rapide, mais il n'était pas à fond, et il n'était pas à fond tout de même, mais il écrasait tout le monde et il avait les pneus froids, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire le meilleur tour en course. Et ça,
tu veux dire qu'il a de la marge, en fait.
Oui,
il a de la marge.
C'est ça, c'est qu'il y a énormément de marge. La RB20 ne tourne pas à fond entre les mains de Verstappen. Perez, je ne sais pas si elle tournait à fond ou non, je vais pas m'avancer là-dessus, mais dans les mains de Verstappen, je pense qu'elle ne tournait réellement pas à fond. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le Japon qui est déjà un circuit juge de paix dans une saison. Normalement, c'était en fin de saison, mais cette année, c'est en début de saison. Et on a les informations comme quoi, semblerait-il plutôt, Red Bull va apporter des améliorations sur cette RB20, des grosses améliorations.
Ce qu'ils ont dit, ouais.
Donc, c'est en ça où effectivement le Japon va être un juge de paix très clairement, et clairement un juge dans cette saison, dès ce début de saison, pour voir si effectivement, oui, Red Bull va d'ores et déjà un peu assommer la concurrence par rapport à Ferrari, même si Ferrari, c'est vrai, sont très réservés, notamment par la voix de Frédéric Vasseur, et eux sont en mode « bon, on est là, d'accord, il y a de la marge à aller chercher, mais on ne peut pas dire si on ne va pas aller chercher ou non ».
Ouais, eux ils bossent de toute manière, ils ont la tête dans le guidon, un peu les Ferrari, ils bossent et ils se taisent. C'est vrai qu'on les entend pas trop. D'ailleurs, Paul, on va revenir quand même un peu sur ce qui se passe, même si Jean-Luc en parlait un petit peu, toutes ces rumeurs, ces gossips autour de la dramaturgie Red Bull en ce moment, parce que ça a encore évolué ce week-end. On a vu qu'il y avait des prises de parole d'Helmut Marko, une enquête interne qui visait le conseiller spécial de Red Bull qui a 80 ans, qui est plutôt soutenu par le clan Verstappen. La première info, c'est que malgré tout ce qui se passe en coulisses, Paul, les Red Bull, ça bouge pas. Sur la piste, ils sont ultra performants. Et que voilà, ça fait peut-être pas du bien à la F1, mais en ce moment, plus que des perfs de Verstappen, de la domination de sa RB20, on parle plus de ce qui se passe en coulisses. Quoi. C'est un peu ce qui fait vibrer la F1 et c'est symptomatique de quelque chose. C'est-à-dire que le sportif passe vraiment en second plan en ce moment parce qu'ils sont tellement au-dessus que ce qui nous intéresse, en fait, c'est les coulisses.
Ouais, on a d'ailleurs peut-être atteint le point de non-retour hein, entre le clan Verstappen avec évidemment le Jos Verstappen, le père du triple champion du monde, et le clan Horner. Évidemment, en coulisses, on s'agite. On a encore vu d'ailleurs ce week-end dans le paddock des membres de l'écurie Red Bull aller taquiner évidemment encore Christian Horner. Alors lui, il se pare de ses deux premiers Grands Prix pour dire au niveau sportif, évidemment, tout va toujours très très bien. Encore une fois, un doublé, même si on le précisait il y a quelques instants, Charles Leclerc a chippé le point du meilleur tour, mais c'est vrai que pour l'instant, on s'attache à écouter ce qui se dit en coulisses. On l'évoquait la semaine dernière dans le premier épisode de notre paddock F1. Toto Wolff était régulièrement vu avec le père de Max Verstappen. Des rumeurs, pourquoi pas voir le triple champion du monde quitter Red Bull à la fin de cette saison pour rejoindre Mercedes, puisqu'on rappelle que Lewis Hamilton quittera Mercedes pour évoluer dans une Ferrari. Bon, des bruits de couloir, mais c'est vrai que sur la piste, pour l'instant, c'est une domination impeccable et on voit mal comment Max Verstappen pourrait ne pas continuer de remporter des Grands Prix. On avait vécu, Jean-Luc, évidemment, les années Michael Schumacher, le Baron Rouge, les années avec Lewis Hamilton qui dominait au volant de sa Mercedes. On est, je pense, parti pour assister encore une fois à une totale domination du meilleur pilote, de la meilleure voiture. On a nommé Max Verstappen, tout simplement.
De toute manière, je pense que le podcast sur la domination de Max Verstappen est-elle la plus grande domination de l'histoire de la F1, il risque de tomber cette saison, on va pas se mentir. En tout cas, ça peut tomber cette saison si ça continue comme ça. Juste Jean-Luc, et on termine après, on repart sur le sportif, mais Helmut Marko a été confirmé par les big boss de Red Bull qui étaient présents là à Jeddah en Arabie Saoudite. Ça continue de bouger en coulisses à Red Bull.
Oui, écoute, j'ai réuni pas mal d'infos sur cette histoire absolument sordide, et notamment si on reprend le sportif, et c'est quand même a priori moi ce qui m'intéresse, concernant Jos Verstappen. Donc il a 52 ans aujourd'hui, il a 107 Grands Prix au compteur qu'il a effectué entre 1994 et 2003. Son meilleur classement sur la piste, résultat en course, est 3e. Sur la grille, il a été 6e et sa meilleure saison, c'était la première, c'était en 1994. Il termine 10e avec 2 podiums. Par parenthèse, il était coéquipier d'un certain Michael Schumacher. Alors après ça, l'homme, alors là pour le coup, c'est un peu... Il y a eu quelques turbulences dans son existence. Déjà, il a été marié 3 fois, il a 5 enfants, dont Max, évidemment. En 98, lors d'une course...
Il a quelques pensions à lâcher, l'ami Joss.
Je pense qu'il a... oui, là, il a quelques charges, effectivement, financières. En 98, il met son poing dans la figure du père d'un des rivaux de Max sur la piste et il lui fracture la mâchoire, ce qui lui vaut, évidemment, une condamnation. En 2008, il a également 3 mois de suspension et 3 mois de menaces. Parce qu'il a précisément menacé Sophie Kumpen, qui est la maman de Max, avec qui il a été marié. En novembre 2011, il a assailli avec sa voiture carrément une jeune personne de 24 ans avec qui il avait entretenu des relations. En janvier 2012, il a été arrêté pour tentative de meurtre sur une autre ex-girlfriend et il a fait 2 semaines de tôle quand même. Je m'arrête là.
C'est vrai que le casier commence à être un peu chargé, ça se termine rarement bien avec Joss. Les relations professionnelles et personnelles.
Voilà, alors bon, bah, le Max, il essaie de faire la part des choses. Il a dit, bah oui, c'est mon père, je le respecte infiniment, ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'heureusement, comme tous les grands champions et comme tous les grands pilotes, dès qu'il ferme la visière de son casque, une seule chose compte, évidemment, c'est la performance et c'est le sportif. Maintenant, des relations toxiques, c'est le mot, entre les parents, les pères ou les mères et les enfants, bah, voir le père Williams, hein, vous avez dû voir un documentaire là-dessus, voir le père Tsitsipas, qui est toujours dans les tribunes, ouais, dans le tennis, ouais. en train de hurler, voir la mère de Mbappé, enfin je m'arrête là, voir Nelson Piquet senior, pour revenir dans l'histoire, et le scandale avec Nelson Piquet junior qu'on avait balancé, vous vous rappelez, dans le Singapour Gate, hein, ouais, pour faire gagner Alonso à l'époque. Enfin, des histoires sordides, il y en a en F1 comme il y en a partout. Alors maintenant, est-ce qu'une nouvelle fois, est-ce qu'il y a deux clans? Ça a toujours été un petit peu le cas parce qu'effectivement, on a longtemps, depuis plusieurs années, hein, des tensions entre Horner et Helmut Marko, le conseiller spécial à l'époque de Dietrich Mateschitz, hein, qui était le patron visible, parce que n'oublions pas les Thaïlandais, il y en a toujours eu. Donc en fait, mais les résultats sont là, et il y a eu deux périodes, parce qu'on rappelle quand même les quatre titres consécutifs de Vettel. Il ne faut surtout pas les oublier, ceux-là. Hein. Donc, pour être clair, la Formule 1, c'est comme ça. Il y a toujours eu des balanciers. Il y a toujours une équipe qui a dominé pendant un certain nombre de saisons. Et puis, comme toujours, dans le cadre d'une domination, on s'approche toujours de la fin. Alors, quand ce sera pour Red Bull, l'avenir nous le dira.
Ouais. Alex, on t'a pas attendu sur cette histoire de Red Bull là, et tout ce qui se passe en interne. Cette guerre entre le clan Horner, le clan Verstappen, Mercedes qui essaye de se greffer pour récupérer Max Verstappen. Et d'ailleurs, Toto Wolff, il s'en est pas caché. Hein, ce qu'il a dit, si on peut le faire, voilà, on va pas s'en priver. Bien sûr qu'on a envie que Verstappen soit chez nous dès l'année prochaine. Comment tu juges ça? Est-ce que ça dessert un peu la F1 ou est-ce que malgré tout, quand même, ce petit côté people un peu là, ce qui nous attire, hein?
Bah, ça dessert forcément la F1, surtout principalement par rapport à l'histoire autour de Christian Horner, où là pour le coup c'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer par rapport à cette histoire là mais même au-delà de tout ça, forcément ça dessert la Formule 1, ça dessert Red Bull, parce que d'une certaine manière Red Bull est un peu en train de gâcher tout ce qu'ils ont accompli sur les dernières années par rapport à cette histoire là ça gâche réellement le sport. Après, il y a d'une autre manière, je me posais aussi cette question: est-ce qu'on a déjà vu, on a certainement déjà vu ça dans l'histoire du sport, mais même dans l'histoire de la Formule 1, une écurie qui était en plein remous en interne, qui était en plein chaos en interne, quand même dominer sportivement et même de rouler littéralement sur la concurrence? Ça, je me posais réellement cette question, parce que c'est extrêmement paradoxal de voir qu'en interne, c'est le chaos total. Par contre, sur la piste, 1 et 2,
t'as l'impression que ça leur glisse dessus, en fait.
Exactement.
Tout ce qui sort, tout ce qui se passe.
Ouais, exactement. Et même d'ailleurs aussi par rapport à Mercedes, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce début d'année 2023 à 2024 et au-delà de même de la saison, c'est qu'on a toujours des péripéties, on a toujours des changements de situation extrêmement intéressants par rapport au fait où Hamilton a signé chez Ferrari, c'était inattendu d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, on a maintenant Max Verstappen qui est potentiellement sur le marché des transferts, le meilleur pilote à l'heure actuelle qui est sur le marché des transferts à cause d'une histoire qui est extra-sportive, bien évidemment. Donc, de ce point de vue-là, on se dit, bah, si Mercedes ne va pas aller chercher Max Verstappen coûte que coûte à ce niveau-là, c'est même quasiment une faute professionnelle. Il faut aller chercher Max Verstappen. Et Toto Wolff a totalement raison de mettre la pression en disant, bah, s'il est sur le marché, oui, on va aller le chercher. On aimerait bien l'avoir. Même en disant, même en taquinant, en disant que oui, bah, si Helmut Marko est disponible aussi, nous, on peut le prendre.
Bah oui.
C'est le message, il est clairement envoyé.
Il est bon, Toto, quand même. Hein, ah, il est bon, Toto.
Exactement.
Ok, les gars, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Red Bull, ou on peut passer quand même sur l'attraction du week-end? Vas-y,
Jean-Luc. Je veux bien citer à nouveau Adrian Newey. J'ai eu une infinie admiration pour cet ingénieur, ce créateur. Je crois qu'il a 14 titres de mémoire, hein, à son actif, auprès de diverses écuries. Et puis Pierre Vacher, qui l'a rejoint, c'est eux les concepteurs de la monoplace. Je pense que c'est également un élément très important du contrat de Max Verstappen, qui effectivement, comme tous les contrats, comporte des clauses que nous ne connaissons pas. Donc tout ça, ce sont des supputations. Je rappelle quand même qu'a priori, le contrat de Verstappen l'emmène jusqu'à la fin de la saison 2028, avec effectivement des conditions concernant ses partenaires, concernant les gens avec qui il doit travailler. Et je pense que dans ces questions, dans ces raisons, figurent Newey et Vacher, me semble-t-il.
Ouais, tu penses que
pour ajouter quelque chose, messieurs, quand même, on évoquait, c'est vrai, la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari à l'âge du Britannique, hein, quasiment 37 ans. C'est peut-être un baroud d'honneur,
39.
Alors que Max Verstappen était encore quand même très très jeune. Jean-Luc évoquait vous évoquiez tous la domination de Sébastien Vettel. C'est encore un pilote très très jeune, triple champion du monde, mais qui prendrait peut-être un risque à quitter Red Bull pour aller dans le baquet d'une Mercedes. On voit aujourd'hui que la Mercedes n'est quand même plus la deuxième, mais peut-être être la troisième ou la quatrième force du plateau. Donc peut-être un risque aussi pour Max Verstappen, qui est tellement bien dans cette Red Bull et qui, à mon avis, a encore envie de dominer et d'écraser la
Après, on va voir, ça va être stratégique, parce qu'en 2026, tu as le nouveau règlement. Que tu sais pas si le nouveau motoriste qui est censé accompagner Red Bull Ford déjà va s'engager avec ce qui se passe et puis comment ça va se passer aussi. Donc il y a quand même pas
A priori, si, hein, mais bon.
Ouais, a priori, c'est un peu la tendance. Mais bon, j'ai l'impression que ça peut encore beaucoup bouger, ces histoires dans les coulisses, tout ce qui touche autour de Red Bull. Les gars, on va quand même revenir sur la piste avec. C'était notre petit bonbon du week-end, puisque vendredi matin, Carlos Sainz a dû déclarer forfait pour la course, hein, victime d'une crise d'appendicite. Il a été opéré, d'ailleurs, on l'a vu, hein, dans le paddock dimanche pour assister à la course de Ferrari. Et c'est un jeune Britannique de 18 ans, bientôt 19 au mois de mai, Olivier Biermann, que moi personnellement je connaissais absolument pas, qui a pris le baquet de Sainz et qui a été très très bon, Alex. Voilà, et ça nous a un peu réconforté quand même avec ce week-end de course, parce qu'on se dit, sans Biermann qui fait cette course incroyable, qui manque la Q3 pour seulement 36 millièmes, qui a un baptême de feu de dingue, qu'il a admirablement bien géré, parce que il est sous la pression pendant la course. Déjà il roule pour Ferrari, donc t'imagines la pression qui peut l'étouffer. Il a été calme, il n'a pas fait d'erreur, il a fait quelques dépassements. Il a été félicité d'ailleurs par tout le monde, Alex. Quelle bouffée d'oxygène en fait, ce petit Biermann.
Quelle bouffée d'oxygène, et on peut clairement le dire, hein, je pense qu'il a réussi son entretien d'embauche pour être en Formule 1 l'année prochaine.
Tu penses que c'est déjà fait ? Tu penses que c'est déjà fait,
là ? Oui, parce que par rapport au jeu des marchés des transferts, très rapidement là-dessus, on sait qu'en 2025, Audi va penser déjà à prendre des pilotes pour justement préparer sa venue en Formule 1. Et il y avait des rumeurs qui évoquaient justement l'arrivée de Nico Hülkenberg du côté de chez Audi. Donc forcément, oui, ça laisse une place du côté de chez Haas, lié à Ferrari. Ça peut laisser Oliver Biermann qui venir du côté de chez Haas. Mais pour revenir au week-end d'Oliver Biermann, la rapidité d'exécution, la rapidité d'adaptation est extrêmement folle. Et ça montre aussi une solidité... une solidité sur le fait d'avoir la capacité de réussir à avoir de la pression tout de suite et être prêt tout de suite. Si avec si peu de préparation, Oliver Biermann sort cette prestation-là, ça annonce vraiment de très grandes choses pour lui. On savait que c'était un talent générationnel, un crack générationnel, ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Ferrari soutenait Oliver Biermann parce qu'il savait très bien que lui, il avait un talent. Il l'a montré d'ailleurs, que ce soit dans toutes les formules de promotion, et là il le montrait d'ailleurs en F2. On rappelle quand même qu'il sortait d'une pole et il partait pour faire la course sprint en F2 le vendredi. On lui dit non, tu vas piloter pour Ferrari. Déjà aussi, pour s'adapter à ça, c'est assez fou. Et à 18 ans, avoir aussi, moi j'insiste sur le fait d'avoir le courage à 18 ans d'entrer dans une Ferrari, de piloter pour Ferrari en Formule 1, dans l'écurie la plus historique en Formule 1, et sortir cette prestation-là de haute volée en qualification, ne pas être loin d'ailleurs d'éliminer sur Lewis Hamilton aussi, hein, d'ailleurs, il n'était pas loin de passer en Q3, et en course, avoir cette solidité, comprendre qu'il a les capacités de tenir Lewis Hamilton et Lando Norris aussi derrière lui pendant la fin de course, et également aussi il était dans le rythme, si je ne me trompe pas, de George Russell qui était devant lui. Très clairement, là, ce qu'a montré Oliver Biermann, c'était exceptionnel. Même Fred Vasseur ne s'attendait pas à avoir une aussi grosse
personne,
performance.
Personne, je crois, hein, tiens Alex. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on va écouter Charles Leclerc. Il a parlé de la perf de Biermann après le Grand Prix.
Je vais prendre aucun mérite dans ce qu'il a fait ce week-end, parce que c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a fait. Vraiment, je pense que les gens se rendent compte à quel point c'est compliqué d'arriver seulement en FP3 dans une voiture qu'on ne connaît pas, sur une piste aussi difficile que Jeddah, et d'être tout de suite dans le rythme. J'ai regardé les trois premiers tours de la voiture en FP3, j'étais bluffé, je me suis dit mais putain, il va me mettre la pression ce week-end. Et voilà, je suis vraiment content pour lui, pour le team en général, qui malheureusement sans Carlos, on a quand même maximisé le potentiel du week-end, et ça c'est positif.
Bon, il a tout dit, Charles, hein, au micro du diffuseur Canal+, sont très sympas de Charles Leclerc sur la perf d'Oliver Biermann. C'est vrai, Jean-Luc, il a été impressionnant, tout simplement, Biermann. Toi aussi, tu penses que ça valide un petit peu son ticket pour les années à venir en F1 ?
Écoute, je l'espère vivement, mais je vais répéter toujours la même chose. Pour moi, il manque 4 à 6 baquets en F1 pour permettre aux jeunes pilotes très talentueux, voire Théo Pourchaire, hein, et il y en a d'autres, voire Drugovic, Felipe Drugovic, ces gens-là qui ont remporté le championnat en F2 et qui sont à pied pour le moment, qui sont pilotes de simulateur, c'est quand même une hérésie. Donc là aussi, on a repoussé la candidature d'Andretti et Cadillac, du côté de la FOM, hein, on l'avait accepté du côté de la FIA. Oui. Pour moi, c'est une hérésie. Moi qui ai eu la chance de connaître des grilles de départ à 26 voitures, les 6 baquets qui manquent, c'est pas devant, hein, bien sûr, c'est derrière. Donc c'est ça qui est dramatique. Alors bien sûr qu'il a un talent extraordinaire, et comme le soulignait Alex, ben, moi je le suivais un petit peu comme tous les pilotes aussi brillants depuis Paris, l'ADAC F4, l'Italien F4, 17 victoires, 2 titres en 2021. En F3, il est 3e du championnat. Bon, et puis en 2023, il remporte 4 victoires et termine 6e. Mais on sait que c'est un garçon qui a un talent absolument fabuleux, qui a déjà battu plusieurs records. À 18 ans, c'est le plus jeune britannique à accéder à la Formule 1. C'est le 3e plus jeune pilote à avoir accédé à la Formule 1. Et c'est le plus jeune pilote à avoir débuté comme ça chez Ferrari. Donc ça c'est fait énorme. Déjà beaucoup, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est donc vrai, c'est sûr que bah, Charles a tout dit, on va pas épiloguer. J'espère qu'il aura une place, mais le problème c'est à la place de qui, puisque bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur le marché à la fin de cette saison. J'espère qu'on ne l'oubliera pas. Et puis tu sais, il y a des contre-exemples. Bon, certes, il n'avait ni le même âge ni le même palmarès, mais Nick De Vries qui avait réalisé un remplacement formidable à Monza, du coup il trouve un baquet et puis il se fait virer à la mi-saison. Donc je pense pas que ce soit le cas de Biermann, hein, pas du tout. Il est pas du tout dans le même concept et dans la même situation de carrière, ni au même âge. Je pense que c'est, oui, c'est effectivement une pépite. Maintenant, j'espère qu'il trouvera un baquet. Ouais.
Et Nico, pour corroborer les propos d'Alex et de Jean-Luc, c'est vrai qu'on avait vu à l'issue de la séance de qualification où il est passé vraiment à deux doigts de sortir Lewis Hamilton. Eh bien, il était déçu, évidemment ravi, content d'avoir pu participer à cette séance de qualification, mais déçu de ne pas pouvoir s'extirper et aller jouer, pourquoi pas, l'une des premières position, peut-être
ouais,
pas la pole position,
hein. Mais
c'est de la graine de champion. On espère, et tout le monde l'espère dans le paddock, revoir Oli, c'est son surnom, rapidement en Formule 1, pourquoi pas, comme le précisait Alex et Jean-Luc, dès l'année prochaine.
Je réinsiste sur une chose, vas-y. Il s'est pas planté, il a pas planté la voiture. À Jeddah, c'est sur une piste aussi qui est très poussiéreuse, forcément, parce qu'il y a la mer qui est à côté. Il n'a pas planté la voiture, d'autres l'ont fait durant le Grand Prix, comme Joe en FP et également Lance Stroll aussi en course.
Exactement, et d'ailleurs c'est le premier rookie à être élu pilote du week-end. Il a été élu pilote du jour par les fans, donc ça montre quand même qu'il a marqué un petit peu l'opinion publique. Et d'ailleurs il a reçu quelques messages de soutien, écoutez-le, Oli Biermann, à la fin de cette belle course pour lui. Il y a pas mal de grands noms de la F1 qui lui ont envoyé des messages.
J'ai reçu un message d'un de mes héros, Sébastien Vettel, c'était très gentil et c'était avant la course, donc merci Seb.
Voilà, merci Seb. Sébastien Vettel qui lui a envoyé un petit message, Oliver Biermann, donc au micro du diffuseur et Canal Plus à la fin de la course. Les gars, on va aussi se pencher quand même sur la perf des Mercedes. George Russell 6e, Lewis Hamilton 9e à la fin. Mercedes qui marque autant de points qu'Aston Martin sur cette course-là, que 10 petits points. On s'attendait pas à ça, Jean-Luc, de la part des Mercedes. On sent que la voiture a des problèmes de rebond. En tout cas, c'est ce que disait Hamilton à la radio, à ses ingénieurs, pardon, et il s'en est plaint dès vendredi. Donc voilà, tout n'est pas encore au top du côté de Mercedes et ça se ressent vraiment en course, hein.
Bah c'est clair, de toute façon on a vu les limites de l'exercice, hein. Les pilotes donnent tout ce qu'ils ont. D'ailleurs, par parenthèse, je pense qu'il va falloir que Hamilton redresse la barre. Bon, ça ne va rien changer à la suite de sa carrière, mais là pour le moment il marque un petit peu le pas par rapport à Russell, hein. On le dit toujours, l'adversaire principal d'un pilote c'est son équipier, avec le même matériel. D'ailleurs moi je m'interroge sur une chose, est-ce que Russell avait véritablement le même matériel la saison dernière? On peut toujours se poser la question. En tout cas cette année on voit que le début de course, il est plutôt en faveur de Russell, hein, c'est une évidence, puisqu'il a totalisé 18 points, là où Hamilton n'en totalise que 8 après deux Grands Prix. C'est quand même un gap. Donc, encore une fois, son avenir, il est tracé pour Lewis. Maintenant, oui, la performance, elle est légèrement en deçà. C'est bien la preuve aussi que les séances d'essai libres ne permettent pas de tirer véritablement des conclusions précises, hein, puisqu'on a vu les Mercedes vraiment à la fête à un moment, mais bon, ça ne veut rien dire. Il n'y a que les qualifs et la course qui comptent. Les qualifs, on a une performance sur un tour et la personne triche, évidemment, ou alors il faudrait être complètement abruti. Et en course, c'est pareil.
est-ce que Paul, on commence à s'inquiéter pour Hamilton? Enfin, s'inquiéter, le mot est fort, hein. Mais tu vois qu'il est battu par Russell, tu vois quand même qu'il est loin. Là, tu vois encore sur cette course qu'un pilote comme Oli Biermann arrive à le tenir, quoi. Donc on se demande si, niveau perf, Lewis, il est encore au niveau ou non, je vais un peu loin.
Bah, tu vas peut-être un petit peu loin, c'est vrai que Jean-Luc le précisait, il faudra attendre peut-être 5 ou 6 courses pour voir où est le septuple champion du monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'en annonçant avant le début de cette saison qu'il quittait Mercedes pour Ferrari, et Jean-Luc le précisait dans le paddock F1 la semaine dernière, c'est vrai que si Russell continue de dominer Lewis Hamilton, bien peut-être que les évolutions de la Mercedes et que toute la stratégie Mercedes sera portée sur George Russell. Après, Lewis Hamilton, avec son palmarès, ses victoires, ses pole positions, son envie toujours de gagner à quasiment 37 ans, sont toujours là. Mais c'est vrai que, Jean-Luc, on peut se poser la question de savoir si cette année, ce ne sera pas peut-être le champ du cygne pour le septuple champion du monde.
Ouais. Non, mais en plus Alex, sur cette course-là, c'est que là où tu vois que la perf, elle n'est pas au rendez-vous et que c'est vraiment le principal problème de Mercedes, c'est qu'ils ont essayé de tenter une stratégie décalée. Ils essayent de rentrer au stand au moment où tu as la voiture de sécurité qui entre sur la piste, et malgré ça, en fait, ils n'y arrivent pas.
Il y a de quoi être très inquiet quand même par rapport à Mercedes, parce qu'on arrive dans cette saison avec une W15 qui changeait totalement de concept par rapport à ce qu'on avait pu avoir sur les deux dernières années. Et puis ce concept-là, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas. On avait tenté un aileron avant qui était innovant justement en jouant avec les limites du règlement. À l'heure actuelle, ce concept ne fonctionne pas. Et même ce qui était assez intéressant, c'est qu'au sortir de Bahreïn, il disait « Bon, en Arabie Saoudite, on s'attend à faire de meilleures performances parce qu'on s'est préparé pour ça. » Et puis on arrive en Arabie Saoudite, il n'y a pas le niveau qui est attendu. Et même, il y a une phrase qui est assez éloquente quand même de la situation de la part de Toto Wolff, qui a dit qu'il pense qu'ils ont encore des problèmes au niveau de la simulation et d'une corrélation forcément entre ce qui se passe dans le simulateur et ce qui se passe en piste. Ça fait 3 ans quand même, hein. On parle de Mercedes, on parle pas de Haas, on parle pas de Williams, oui. On parle pas de Steak même. On parle vraiment de Mercedes. On parle de l'écurie, l'une des plus successful de l'histoire de la Formule 1. Et ça fait 3 ans qu'ils ont toujours les mêmes problèmes au niveau de la simulation. Donc, on comprend le choix de Lewis Hamilton finalement de se dire bon, bah peut-être que on parlait de cycle par rapport à Verstappen et Red Bull, que le cycle devait se terminer pour Hamilton et Mercedes. Et aujourd'hui, oui. Là, la situation est presque alarmante, inquiétante, oui, mais presque alarmante. Et de ce fait-là, j'ai du mal à imaginer que Lewis Hamilton trouve, j'ai envie de dire, la motivation pour être dans le même mindset qu'on a pu avoir par rapport à Lewis Hamilton sur les dernières années avec Mercedes, avant même 2000.
Ah, tu penses qu'il peut lâcher un peu, du coup? Parce que vu qu'il sait que c'est un peu sa dernière...
Jean-Luc, là, je suis d'accord dans le sens où Jean-Luc aussi a dit une réalité, c'est qu'il est en deçà de Russell. Je ne pensais pas qu'un jour Lewis Hamilton allait être en deçà de George Russell en termes de niveau. Est-ce qu'ils ont le même matériel? Ça, c'est une autre question, bien sûr. Est-ce que Lewis Hamilton teste des choses sur la W15? C'est une question aussi, bien sûr. Mais il a l'air d'être en retrait. Et même, il y a une phrase de Lewis Hamilton, je crois que c'était juste avant le début de Bahreïn, lors de la parade des pilotes. Il a dit « Bon, j'ai raté mon tour de qualif, c'est comme ça ».
Ouais, ça lui ressemble pas, quoi.
Ça lui ressemble pas du tout. Cette phrase-là, j'ai regardé la vidéo en me disant, il a vraiment dit ça, dans le sens où, généralement, il ne sortait pas ça de cette manière-là. Il disait des choses, notamment au niveau de la voiture. Il a juste dit, c'est juste moi qui me suis loupé. Voilà, bonne soirée.
C'est un peu éloquent. C'est vrai, Jean-Luc, tu le sens un peu des fois résigné aussi, Lewis, là?
Écoute, encore une fois, c'est trop tôt. Tu sais, on pourrait se mordre les lèvres si on
affirme
déjà.
On va préciser.
Ça y est, il est cramé parce qu'effectivement.
On fait des analyses au bout de la deuxième course. Bien évidemment, ça ne va pas conditionner la suite de la saison. Mais au moment où on se parle, tu vois.
Au moment où on se parle et par rapport aux deux premiers Grands Prix, clairement, il est dominé par George Russell. C'est clair. Alors, je pose la question parce que je pense que c'est notre rôle de journaliste, hein, de poser les vraies bonnes questions. Est-ce que George Russell, jusque-là, a bénéficié du même matériel que Lewis Hamilton chez Mercedes? Moi, je n'en suis pas convaincu.
C'est ta conviction profonde, ça, Jean-Luc.
C'est ma conviction. Et puis, elle est basée sur différents éléments. Mais je vais vous rappeler quelque chose, hein. Vous vous rappelez de justement quand Hamilton souffrait du Covid et qu'il avait été remplacé par George Russell. Rappelez-vous, c'est peut-être la plus grosse cagade, il n'y a pas d'autre mot, de l'équipe Mercedes en Formule 1, quand on s'est raté 2 fois au moment où on a arrêté George Russell, mais pour pas qu'il gagne, tout simplement. Parce qu'une écurie de Formule 1 est capable de faire ça, j'ai plein d'exemples dans le passé. Quand elle a choisi un pilote, imaginez-vous, effectivement, l'audience que ça aurait pu avoir et les remous que ça aurait pu provoquer, si quelqu'un comme Russell, débarquant chez Mercedes, égalait immédiatement les performances d'Hamilton avec sa voiture.
Non, mais c'est comme si ce week-end, Olivier Hermann, il va taper Charles Leclerc.
C'est exactement ça. On est exactement au même niveau. Donc on a fait en sorte, et le pauvre, il pleurait, George Russell, vous en rappelez. Il pleurait. Et il ne pouvait pas dire ce qui s'était passé. Encore une fois, deux bévues, pour rester poli, deux bévues, mais monstrueuses, de Mercedes, qui à l'époque était au top en stratégie. C'est inadmissible et c'est même incompréhensible. Et pour ma part, je ne l'admets pas. Donc, c'est volontaire. Voilà.
Bon, ça va être notre petit point alpine, les gars. Je vais peut-être demander à Arthur Robert, notre boss des podcasts, qui est en régie avec nous, de nous faire un petit jiggle alpine la cata. Parce que, bon, alors, c'est peut-être un peu moins la cata que la semaine dernière. On l'a dit, Pierre Gasly, quand même, abandon au premier tour, problème de boîte de vitesse. Et Esteban Ocon qui termine 13e. On va écouter Esteban sur ce Grand Prix.
Je pense qu'on a fait une belle course, en tout cas on a maximisé le potentiel aujourd'hui qu'on avait entre les mains et même plus je pense, parce qu'on n'aurait pas vraiment dû se retrouver à la 11e position. C'était une bonne course de ce point de vue là, maintenant pas suffisant pour marquer des points aujourd'hui.
Voilà Esteban Ocon chez nos confrères de Canal+, après la course. Maximiser le potentiel, j'ai l'impression Paul que les pauvres Gasly et Ocon là, ils ont que cette expression là à la bouche parce que bah, leur voiture elle est tellement difficile à conduire qu'en fait ils peuvent pas faire mieux. Et que c'est tu peux pas conduire cette voiture en fait.
Ouais,
pour
et on peut même se demander, Nico, si les pilotes alpines ne sont déjà pas résignés après seulement deux Grands Prix, hein, éliminés, on lisait dès la première séance de qualification, des voitures à l'arrêt, un problème de boîte de vitesse pour Pierre Gasly.
Alors, Esteban, il a gagné quand même 4 places en course. Tu vois, il part 17ème et il termine 13, donc tu peux voir un peu positif enfin, quand même, peut-être. Mais...
Pour des pilotes qui ont quand même gagné en Formule 1, hein, que ce soit pour Pierre Gasly ou pour Esteban Ocon, de jouer vraiment le fond de grille, ça risque d'être compliqué. On l'évoquait encore une fois la semaine dernière, on prête des intentions en tout cas au manager de Pierre Gasly de chercher un baquet pour la saison prochaine. On pense évidemment au baquet de Lewis Hamilton chez Mercedes, mais c'est vrai, Jean-Luc et Alex, que ça semble vraiment déjà trop compliqué pour Pierre Gasly et pour Esteban Ocon.
Ouais, en plus, Alex, il y a eu pas mal de départs là qui ont été officialisés. Ouais. Enfin, il y a une vraie structuration. Ah ouais. Au sein de chez Alpine. Donc ça bouge beaucoup. Hein.
Ça bouge beaucoup, mais ça devait bouger. Ça pouvait plus rester ainsi du côté d'Enstone et de Viry-Châtillon aussi, d'ailleurs, puisque c'est Eric Maignan qui est à la direction du côté de Viry-Châtillon qui gère le moteur. Materman est parti, Dirk De Beer est parti, directeur technique et responsable de l'aéro, remplacé. Et là, c'est une structure, on prend l'exemple sur d'autres écuries. Chez McLaren, il y a un an, on avait fait ça, c'est-à-dire qu'on avait viré, je crois que c'était James Kay, si je ne me trompe pas, qui avait été renvoyé du côté de chez McLaren pour être remplacé par trois personnes justement du côté de chez McLaren, et on a fait la même chose du côté de chez Alpine. Joe Burnell qui est à la direction technique ingénierie, David Witter si je ne me trompe pas au niveau de l'aéro,
quel anglais, quel accent.
et Tyrone Pitbeam qui lui qui prend la direction technique au niveau de la performance. On prend l'exemple de McLaren parce que McLaren ça a été un exemple de réussite l'an dernier, et au vu de la situation du côté de Shenstone qui est un navire qui est un peu en train de couler, bah, il fallait tout de suite prendre les canots de sauvetage et trouver une situation pour construire un navire. Et on peut faire confiance, on va espérer, pour redébuter encore une nouvelle ère, une énième nouvelle ère depuis 2016 du côté d'Enstone, pour permettre justement à Alpine d'avoir de donner des garanties par rapport à l'avenir, parce que le but, ouais, c'est aujourd'hui de donner des garanties à Esteban Ocon et à Pierre Gasly. Esteban Ocon, on comprend par rapport au contrat qu'il a, qui le lie d'une certaine manière encore une fois à Mercedes. Bon, si Alpine, cette année, ça ne s'améliore pas, on sait très bien qu'il souhaitera partir dès la fin de cette année. Et encore une fois, je crois que Esteban Ocon, il a Enstone depuis 2020. Ça commence à faire beaucoup. Quatrième saison. Ça commence à faire beaucoup pour lui, pour un pilote qui a un talent pour remporter des Grands Prix régulièrement. Donc, rester à Enstone et à Viry-Châtillon pour Esteban Ocon plus particulièrement, qui se montre en tant que leader, hein, parce que la course qu'il fait, hein, même s'il ne marque pas de points, hein, avec une charrette qui est la 524, il arrive à sortir une performance en gagnant 4 places, en se battant régulièrement comme il le faut, en étant solide sur tout ce qu'il faut faire. Mais malheureusement aussi, la 524, même Superman ne pourrait pas sortir des performances en fin
non,
de course.
Mais c'est ça, voilà. Ce que j'allais vous dire, les gars. Et Jean-Luc, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, la perf d'Esteban, là, remonter 4 places comme ça en course avec cette voiture-là, c'est limite un petit exploit, on a l'impression. Et ça se traduit un peu dans son quand il te dit ouais, on a maximisé, on pouvait pas faire plus. Et limite, c'est même mieux que ce qu'on pouvait espérer.
Bah, écoute, les pauvres, les pilotes, ils sont en bout de chaîne, hein, c'est le cas de le dire. Ils font avec ce qu'ils ont à tout niveau, c'est-à-dire le matériel déjà. Alors, on peut rajouter à la liste évoquée par Alex il y a un instant, il y a eu Otmar Szafnauer, ce qui était quand même aussi Alan Perman, Pat Fry, Laurent Rossi, Cyril Abitbol, enfin, j'en avais listé 10.
Alain Prost aussi.
Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que malheureusement, on a l'impression que c'est le radeau de la Méduse un petit peu. Hein, et ça fait mal au cœur, encore une fois. Quand on a commencé à la fin de la saison dernière à se rejeter la responsabilité sur le manque de performance entre le châssis, Enstone, effectivement, et Viry Châtillon, le moteur. Les Anglais, comme ils savent très bien le faire, ont dit ah, ben, c'est pas nous, le châssis, il est impeccable. Bon, cherchez l'erreur. Donc, du coup, c'était la perf globale du moteur qui était en cause. Non, c'est quand ça part comme ça, évidemment, c'est un très mauvais signe. Et puis, je crains qu'effectivement, pour être clair, qui va miser sur Alpine à l'heure actuelle ? Et notamment les pilotes. Bah, ils sont en fin de contrat. Évidemment, les managers sont en train de leur chercher de la place ailleurs. Et notamment, bah, évidemment, ce baquet formidable chez Mercedes. Est-ce que Esteban Ocon, malgré tout son talent, hein, les deux sont au même niveau. On les connaît. C'est un peu amicalement vôtre, hein, les deux frères ennemis. Ils sont tous les deux normands. Ils ont fait toute leur carrière côte à côte. Bon, ils ne s'apprécient pas. Ils ne partent pas en vacances ensemble. Mais ils font le boulot, ils donnent tout ce qu'ils ont, mais moi je suis très inquiet. Puis encore une fois, la dégringolade d'Alpine, c'est ça qu'il faut dire, elle a commencé l'an dernier. Quand on termine quatrième du championnat précédent et que là on termine sixième, isolé, très 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 loin des cinq premiers, bah c'est que ça va pas du tout, et cette année c'est pire.
Ouais, ouais.
Les gars, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, où on en a bien fait le tour?
Ajouter
un petit mot sur Dorian Pain, si oui. Vous voulez bien.
Hein, bien évidemment, vas-y Jean-Luc.
Voilà. Allez, c'est formidable ce qu'elle a fait. Bon, on connaissait son talent effectivement dans les épreuves du championnat du monde d'endurance. Hein, et là, elle a ultra dominé. C'est le Verstappen de la Formule 1 Academy. Écoute, j'ai regardé. Non, elle a été étonnante de maîtrise et de talent. Et là aussi, elle a la tête froide. Alors tiens, voilà une Mercedes qui gagne, tu vois, puisqu'elle est pilote. Elle est dans le giron de Mercedes.
Notre pilote français, c'est vrai, qui a fait un super week-end du côté de Jeddah. Alex, tu voulais dire un truc ?
Oui, sur la F1 Academy, ce qu'a sorti quand même Dorian Pain, c'est assez exceptionnel. Alors, il y a l'expérience aussi de Dorian Pain qui met effectivement en avant aussi tout son talent et sa maîtrise au niveau de la course. Malheureusement, elle s'est pas fait disqualifier, mais elle s'est pris une vingtaine de secondes de pénalité à l'issue de la deuxième course. Mais ça n'enlève en rien la performance qu'elle a sortie, bien sûr. Très impressionné de ce que sort Dorian Pain. Le niveau par contre en F1 Academy, là par contre il y a des questions aussi à se poser, parce que oui. j'ai rarement vu dans un même week-end que de Grand Prix de Formule 1, des courses support, où il y avait autant de non pas de sortie de piste mais d'écart au niveau des virages, on va dire ça ainsi, des virages coupés et ainsi de suite. Et ça me fait poser quand même des questions sur le niveau de la F1 Academy, mais rien par contre du niveau de Dorian Pain, qui a absolument écrasé le field.
Les gars, merci beaucoup. Vas-y Paul.
J'avais quand même un petit coup de chapeau à tirer aussi pour Fernando Alonso, parce qu'on évoquait la jeune pépite Oli Berman à 40 ans passés au volant de son Aston Martin. Il est encore dans le top 5. C'est vrai que Jean-Luc, avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, c'est certainement le meilleur pilote du plateau de Formule 1, hein. Et encore une fois, il finit 5e, je crois, à 35 ou 36 secondes du pilote néerlandais. Quel beau pilote, Fernando Alonso, qui continue de nous régaler quand même, hein, à 40 ans passés. Lui qui est toujours à la recherche d'une nouvelle victoire. J'avais envie de lui tirer un petit coup de chapeau à l'Espagnol.
Ah ouais, on l'adore, Fernando.
Et il aura 43 ans en juillet. Hein. Mais il a annoncé, vous savez, en début de saison, qu'il avait un corps qui lui permettait de piloter jusqu'à 50 ans. Donc on va l'avoir encore un petit moment, tant mieux.
Le temps n'a pas de prix sur notre Fernando. Les gars, merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, le 24 mars, enfin après le 24 mars. C'est la date du prochain week-end en Australie. Jean-Luc, tu vas mettre tes plus belles chemises là pour aller à Melbourne. On va se régaler. Qu'est-ce qu'on pense de la performance de notre Oli Berman là, Alex Caldi? Il a été très bon, non? Il a peut-être gagné son baquet pour les prochains paddock RMC. Vous en pensez quoi, les gars?
J'espère.
On l'espère vivement. Validé. Il faut admettre Andretti, et Andretti va le recruter, tu vas voir.
On va faire un petit débrief avec les ingénieurs, mon Alex, mais à mon avis, ça va bien se passer pour la suite.
Merci à vous.
Merci beaucoup, merci les gars, le paddock RMC, c'est tous les lundis, après un Grand Prix, on vous débriefe toute l'actualité de la F1, et pas que d'ailleurs, hein, puisqu'on a parlé aussi de la F1 Academy. Voilà, c'est notre nouveau podcast, donc surtout n'hésitez pas à nous noter, à relayer, à partager en masse ce podcast. Merci Jean-Luc, merci Paul, merci Alex, et à la prochaine, après cette course en Australie. Bye bye.
Le paddock RMC.